Nom de Dieu.
Hey, bienvenue à l'Éclectique 31. Allez, bonne année 2017. On est, je pense qu'on a le droit de le faire avant le 10 janvier et là j'enregistre le 7 janvier alors que c'est correct. Alors bonne année pour ceux qui m'écoutent pour la première fois, pour ceux qui m'ont entendu dans le M podcast, je l'ai déjà souhaité à toutes ces personnes. Alors bonne année, je vous souhaite le meilleur pour vous, ce qu'il y a de mieux. Je vous souhaite d'apprendre, je vous souhaite d'aimer. Je pense que c'est les choses essentielles. Si vous avez pris des nouvelles résolution, je vous souhaite de les tenir. Si vous en avez pris juste une, je vous souhaite d'en prendre plein d'autres pendant l'année. Vous irez écouter le M-Podcast où j'en parle justement par rapport à ça. Alors, retour par rapport à mon passage sur Linux. Ouais, dans le dernier épisode, l'épisode 30, où je parlais de Linux allègrement. C'était un système d'exploitation alternatif pour ceux qui utilisent Windows ou Mac. Vous devriez essayer. Je vous le recommande fortement. Ça vous montre le d'autres côtés. Ça vous donne de la flexibilité au niveau du cerveau, parce que des fois, il faut chercher des alternatives, et il y en a quand même beaucoup sur Linux. Et je vous dirais que mon passage sur Linux se fait très, très bien maintenant. On va atteindre le 2 mois, et ça va très bien, parce que il y a beaucoup maintenant d'alternatives, et j'ai pris beaucoup de mes habitudes sur les applications web. Typiquement, si on parle de Google Drive, il y a beaucoup d'utilisations que j'en fais. J'ai pas nécessairement besoin d'avoir des alternatives au niveau Linux. Alors, pour moi, c'est assez simple, et il y a beaucoup d'applications maintenant que j'utilise en format web. Alors, le passage à Linux, même pour vous, sera d'une facilité déconcertante. J'ai fait une petite rétrospective aussi de l'année 2016 sur mon site web. Vous irez voir sur profduweb.com où je parle, je prends un moment de recul, et je pense que vous devriez faire ça, pas forcément le publier sur Internet comme moi, mais vous devriez prendre tout le temps un moment de recul sur les choses que vous avez faites, prendre un bilan, faire un bilan de tout ce que vous avez fait, de tout ce que vous aviez bien fait, de tout ce que vous avez moins bien fait, tout ce que vous auriez pu mieux faire. C'est bien important de prendre le temps de faire un bilan. Et vous irez voir le mien sur produitweb.com si ça vous intéresse. Hein. En fait, je me dis que si vous m'écoutez, vous vous intéressez un petit peu à ça. Alors, vous irez voir, c'est classé en plein de catégories professionnelles, personnelles, podcast, oui, parce que ça fait beaucoup partie de ma vie. C'est une de mes passions. Technologie aussi. Alors, vous irez voir, il y a eu beaucoup de... Est-ce que c'est celui-ci qui a eu beaucoup de commentaires? Non, il y en a quand même eu quelques-uns, mais il y a de plus en plus de commentaires maintenant sur produitweb.com parce que j'ai passé à WordPress, et j'ai laissé faire Blogueur. J'ai dit bye bye à Blogueur. Alors, vous irez voir sur profduweb.com ma rétrospective de l'année 2016. Alors, sans plus attendre, on va commencer dans le vif du sujet. Alors, pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, hein, j'oublie tout le temps de le faire, mais je vais le faire. C'est quoi l'Éclectique Show? Moi-même, je me pose la question. C'est essentiellement du life hacking, du tech, de la vie du quotidien moderne, mais en français, avec la joie, bonne humeur, et c'est très éclectique. Alors, des fois, je parle juste tech, des fois je parle d'autres choses, même des fois je parle de marketing, de communication. C'est assez spécial, mais ça a l'air à... vous avez l'air à aimer ça. Alors on va commencer tout de suite dans le vif du sujet avec une petite catégorie sécurité. Alors dans la catégorie sécurité cette semaine, ben on entend parler de plus en plus de ransomware. Les ransomware, c'est quoi? C'est des logiciels qui s'installent sur vos ordinateurs. J'en ai déjà parlé. Je pense à l'Éclectique, c'est des logiciels que vous installez. Alors, à la différence d'un virus qui va complètement briser votre ordinateur ou un spyware qui va l'espionner, lui, le ransomware va bloquer tout usage de cet ordinateur-là et va demander une rançon. Alors, évidemment, c'est une rançon en argent. Bien souvent, les gens payent parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens. Mais pour éviter ça, il y a deux logiciels que je vous conseille, que j'ai découvert sur Internet. Un pour PC, un pour Mac. J'en ai pas encore trouvé pour Linux. Mais je me dis que ceux qui utilisent Linux font beaucoup plus attention. Me trompe-je? Peut-être. Alors le premier, ça s'appelle RansomFree. Vous irez voir dans les notes de l'émission pour l'installer. Et le deuxième, c'est sur Mac. Et ça s'appelle Ransom. RansomWare. Et vous allez pouvoir les installer et enfin éviter peut-être la catastrophe. Deuxième point, j'ai trouvé super intéressant cette semaine. J'aime beaucoup le blogueur Hamid Amit Agarwal, un Indien, et là, je viens de le partir dans mes oreilles, vous l'avez peut-être entendu, il a fait une vidéo pour montrer ce que Facebook arrive à décoder, en fait, de vos photos. Alors, grosso modo, cette vidéo vous montre des photos Facebook, et vous pouvez voir à partir d'Internet, de fait de Chrome, ou dans le code HTML, si vous êtes un petit peu développeur, que Facebook ajoute du code dans cette page web là où il y a des photos pour les personnes malvoyantes, pour qu'ils puissent avoir une description de ce qu'est la photo. Alors, c'est super intéressant de voir que Facebook est capable de commencer à reconnaître, l'intelligence artificielle de Facebook reconnaît ce qu'il y a sur les photos et indique le nombre de personnes, ce qu'ils font et ainsi de suite. C'est assez surprenant. C'est même troublant de voir ça, et ça vous fera peut-être peur sur les usages qui peuvent être faits. Mais en tous les cas, je l'ai mis dans le côté sécurité. J'aurais pu le mettre dans un autre, dans l'aspect technologique, mais j'ai trouvé ça très curieux qu'on commence à avoir des descriptions, ou en tous les cas à voir ce que les compagnies sur lesquelles on héberge nos informations commencent à savoir sur nous autres. Vous irez voir. Ensuite de ça, j'ai mis un lien sur 5 outils pour sécuriser votre navigateur. Alors, le lien va sur le EFF, l'Electronic Frontier Foundation. Ça, c'est un organisme qui, depuis le début d'Internet, en fait, a été créé pour pallier à la... au fait que les gouvernements voudraient s'approprier, ou les pays voudraient s'approprier l'Internet, ça fait office de police un peu de l'Internet, sans avoir le pouvoir, tout le moins. C'est un organisme à but non lucratif, mais au moins ça réveille les consciences, ça appelle des fois aux journalistes de faire enquête, ou des choses qui ne seraient pas correctes sur l'Internet, ou l'usage d'Internet. Et puis, vous allez voir, j'ai 2-3 nouvelles par rapport à l'IFF. Sur la page où il y a les 5 outils, il y a des outils qui s'adressent à des spécialistes, puis il y a des outils qui s'adressent à monsieur, madame, tout le monde. Là, je vais parler des outils qui s'adressent à monsieur, madame, tout le monde. Le premier, en fait, c'est PanoptiClick. C'est un outil qui vous permet de vérifier si votre navigateur est sécuritaire. Alors, il teste 4 aspects du navigateur. Le premier aspect, et puis là, je suis en train de faire le test en même temps. Si vous allez voir, c'est assez rapide. Et il va-tu afficher? Voilà. Alors, le premier aspect, c'est voir si vous bloquez les publicités. C'est un aspect de sécurité quand même, de bloquer les sécurités, de bloquer les publicités. À savoir si vous divulguez de l'information et vous la donnez à d'autres, à des compagnies tierces. Le deuxième point qui valide, si c'est votre furteur, bloque les espiogiciels, vous savez, ces espèces de petits bouts de code qui vous traquent d'un site à un autre pour connaître vos habitudes et ainsi de suite. Le quatrième point, c'est pour voir si votre furteur ne vous traque pas lui-même. Si votre furteur en tant que tel ne vous traque pas vos données. Moi, je suis présentement avec Opera, et Opera, évidemment, on ne peut pas garantir qu'il n'utilise pas mes données de navigation. Mais par contre, j'ai un bloqueur natif de publicité, puis j'ai un bloqueur de tracking d'espiogiciel. Et puis le quatrième point, qui est assez important, c'est que même si vous vous connectez pas sur les sites, vous laissez une empreinte numérique de votre furteur qui est unique. Alors, même s'ils n'ont pas directement votre nom, ils ont directement un numéro unique et sur lequel ils peuvent vous retracer. Alors, typiquement, si vous faites des recherches sur Google pour, je sais pas moi, un canot, eh bien, que vous allez après ça sur Amazon et, comme par hasard, ils vont faire des publicités de canaux ou de tout autre objet que vous avez fouillé, vous avez recherché un peu ailleurs. Et ça, comment ils arrivent à le faire? Grâce à votre, si vous n'êtes pas connecté d'ailleurs, comment ils arrivent à le faire? C'est avec votre empreinte numérique. Alors, ça, c'était pour PanoptiClick. Le deuxième, et c'est un site web, hein, vous n'avez pas besoin de rien installer. Le deuxième truc que je vais vous parler, c'est HTTPS Everywhere. Alors, même d'ailleurs, Google va, dans pas longtemps, mettre un avertissement dans Chrome, je pense, pour tous les sites qui n'utilisent pas du HTTPS. Alors, c'est quoi du HTTPS pour ceux qui n'y connaissent absolument rien? Quand vous allez sur Internet, vous passez par le protocole HTTP. Depuis la nuit des temps, ce protocole-là, quand vous êtes sur Internet, ben tout ce que vous écrivez en mode HTTP, bien rien n'est encrypté, tout passe en clair sur le réseau, ce qui fait que si quelqu'un arrive sur votre réseau sans fil et commence à analyser ce qui est les paquets du réseau, ben il va tout voir. HTTPS Everywhere, lui, propose de mettre du HTTPS sur tous les sites. Grosso modo, ce que ça va faire, c'est que ça va encrypter la communication en HTTPS, et ce qui fait que dans les réseaux sans fil au public ou même sur Internet au global, les gens ne verront pas ce qu'ils font, ne verront pas ce que vous faites ou ce que vous écrivez. C'est d'autant plus important de la minute où vous utilisez, je dirais, des sites web avec des formulaires et des données nominatives. Hein, faut faire attention à ça, surtout dans les endroits publics. N'allez pas n'allez pas faire votre rapport d'impôt, ou même, non, c'est pas tout à fait vrai, le HTTPS est là, mais n'allez pas faire des achats sur des sites web qui ne sont pas en HTTPS et surtout pas dans un site public en plus. Alors, HTTPS Everywhere, c'est un plugin, un add-on que vous mettez sur un plugiciel que vous mettez sur votre navigateur et qui fait que ça va tout mettre en protocole HTTPS, même si le site ne l'avait pas. Il y a d'autres petits trucs, Privacy Badger, qui est aussi un plugin que vous installez sur votre furteur et qui, lui, à la différence des adblock et des disconnect que j'ai déjà parlé là, des choses qui bloquent par défaut les petits bouts de code sur les sites web, Privacy Badger lui permet de raffiner ça. Vous affichez toutes les dépendances externes à un site et vous pouvez paramétriser ce que vous voulez qu'il passe ou pas en fonction de vos connaissances. Je vous dirais que si vous connaissez absolument rien à l'Internet, n'utilisez pas Privacy Badger, vous risquez de voir un Internet plutôt affreux, hein, parce que maintenant, les sites utilisent beaucoup de références, beaucoup d'outils externes à leur propre site, et si vous commencez à bloquer tout ce qui ne vient pas d'en dehors du site, vous allez risquer d'avoir des surprises. Alors ça, c'était dans les 5 outils. Vous allez voir, il y en a d'autres. Il y en a plus qui sont plus pour les sites web, les développeurs de sites web. Et il y en a aussi pour devenir volontaire à faire cette surveillance-là sur Internet pour aider l'Electronic Frontier Foundation. Dans mes notes au niveau sécurité, oui, Firefox 52 va s'inspirer de Tor. Tor, ce que c'est un moyen de devenir invisible sur Internet, un espèce de moyen d'accéder à Internet sans que personne puisse savoir d'où vous venez, d'où vous allez, et ainsi de suite. Ben, il semblerait que le navigateur Firefox 52 va s'inspirer de ça et va faire que, vous savez, l'empreinte numérique digitale que je vous ai dit tantôt, là, que vous avez une empreinte unique, Firefox 52, quand il va sortir, devrait ne plus laisser cette empreinte-là un peu partout sur les sites que vous allez consulter, ce qui fait qu'au niveau de l'anonymité, je pense, en tout cas, au niveau de votre sécurité ou de vos données personnelles, vous allez en laisser beaucoup moins traîner grâce à Firefox 52. Et puis un dernier lien, et puis là, je veux pas entrer dans les détails, mais un dernier lien pour régler les paramètres de confidentialité sur Facebook. Vous avez été sûrement dans des soirées pendant le temps des fêtes. Vous avez sûrement été tagué sur des photos et il y a des paramètres qu'il faut absolument mettre dans Facebook pour pas que vous ayez à subir ces choses-là le lendemain matin au réveil d'une photo de vous peut-être un peu trop éméchée et que tout le monde, tous vos amis qui vous suivent vous voient sur Facebook. Allez sur ces liens-là. Je vous dis, c'est assez essentiel de bloquer les contenus, en tout cas d'au moins d'avoir un semblant de contrôle sur ce que vous publiez sur Facebook. On va passer maintenant à la partie technologie. Dans la partie technologie, cette semaine, je vous parle de 3 affaires assez cool. Et puis 3 choses reliées un peu à Linux, fait que ça va être un peu emmerdant pour ceux qui ne connaissent pas ça, mais en tout cas, je vais vous parler du premier CADAS Vim, qui est la première, l'équivalent d'un Raspberry Pi, d'un petit ordinateur très 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 minimaliste, mais sur lequel, à la différence d'un Raspberry Pi, qui est à $69, le CADAS, lui, CADAS Vim est un peu plus gros, est un peu plus cher, peut-être $20 de plus, mais il a l'avantage d'avoir plus de mémoire, plus de capacité que le Raspberry Pi, et il vient directement avec un beau petit boîtier qui est très très minimaliste, mais qui fait très très bien le job. Alors, si vous voulez vous commencez dans le domaine des micro-ordinateurs sur lesquels vous pouvez tout configurer vous autres même et qui ne consomme pas beaucoup d'électricité, je vous dirais, allez voir ça. Il y a l'autre avantage aussi, c'est qu'il est avec un processeur Amlogic S905X, ça paraît que je connais rien quand je dis ça, qui a l'avantage de pouvoir avoir Android. Alors, présentement, il y a Android qui est supporté, Ubuntu, OpenELEC, Bitroot, quatre systèmes d'exploitation, mais il va en avoir de plus en plus, un peu comme Raspberry Pi. Vous allez pouvoir faire de plus en plus de trucs cool. Et puis, ben, l'avantage par rapport au Raspberry Pi, c'est qu'il est plus puissant. Et effectivement, il est un peu plus cher, mais il est plus puissant. Alors, vous allez pouvoir en faire plus. Alors, si le Raspberry Pi répondait pas à vos considérations techniques, allez peut-être faire un tour du côté de CADAS. Deuxième point, pour ceux qui me suivent, allez voir sur mon blog personnel, j'ai parlé du Raspberry Pi tantôt, alors je vous en reparle encore. J'ai essayé Recalbox. Qu'est-ce que c'est Recalbox? C'est un système que vous installez. Et puis là, vous allez voir, c'est pas très compliqué pour ceux qui sont pas très très techno, là. C'est un système que vous installez sur votre Raspberry Pi. Alors, comment vous installez ça? C'est très très simple. D'abord, vous allez voir la recette sur mon site, là. Je vais le mettre dans les notes de l'émission. Tiens, je vais essayer de me prendre une note pour y penser. Le Recalbox, c'est des fichiers que vous téléchargez à partir du site. Vous installez sur une petite carte micro SD. Et cette petite carte micro SD-là, vous la mettez dans votre Raspberry Pi. Vous allumez votre Raspberry Pi, puis automatiquement, va s'installer. Vous avez absolument rien à faire, là. Vraiment rien à faire. Tout va se faire tout automatiquement. Ça va installer une console de rétro gaming avec plusieurs capacités. La première, ben évidemment, c'est que vous allez pouvoir jouer à plusieurs jeux dans le temps, de Nintendo, de Super Nintendo, et ainsi de suite, de Atari et de toutes ces choses-là. Je l'ai expérimenté. Évidemment, une petite mention, si vous installez des jeux sur cette boîte-là, faut que ce soit des jeux que vous ayez, que vous possédiez. Hein. Téléchargez pas des jeux que vous ne possédez pas. Allez pas du tout sur de Private Bay et ne tapez pas des clés de recherche pour aller chercher des ROM, vous n'avez pas le droit. Faut absolument les faire selon ce que vous avez déjà acheté ou vous possédez. Hein? Une fois que c'est dit, ça installe une console de jeu qui se contrôle super bien avec une manette de jeu. Mais ça a l'air con, mais il y a beaucoup de consoles de jeu ou en tout cas de rétro gaming ou de ces choses-là qui sont complexes à installer, qui sont complexes à manipuler. Et quand vous utilisez Recalbox, vous avez plus du tout à vous soucier de ça parce que vous installez Recalbox, vous mettez les choses dans la Recalbox et vous contrôlez tout à partir de la manette d'un jeu comme une console de jeu normale. Alors, c'est basé évidemment sur Linux, mais vous le voyez jamais aller, vous voyez jamais de ligne de commande, l'interface est très 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 belle. Il y a aussi moyen à partir de la console de jeu de la configurer pour qu'elle fonctionne sur votre réseau. Une fois qu'elle est configurée pour qu'elle fonctionne sur votre réseau, parce que le Raspberry Pi a une carte réseau directement intégrée, alors vous la connectez à votre réseau et une fois qu'elle est sur votre réseau, elle devient une espèce de partage que tous les ordinateurs peuvent voir et vous pouvez uploader et envoyer tous vos fichiers dessus. Alors c'est vraiment cool, c'est d'une simplicité époustouflante. L'autre avantage aussi, c'est que ça reconnaît beaucoup beaucoup de manettes déjà préconfigurées. Alors moi j'ai la manette de la Xbox 360, j'ai la manette de la PlayStation et j'ai des manettes achetées à pas très cher sur internet et tout est reconnu. La minute que c'est USB, vous la branchez et vous allez pouvoir jouer. L'interface est simple, c'est simple à installer, vraiment vraiment. Et l'autre aussi avantage, c'est que ça roule Kodi. Qu'est-ce que c'est Kodi? C'est un media center pour le multimédia. Alors typiquement, si vous avez de la musique, des photos, des vidéos, ben la Recalbox va pouvoir les lire en plus des fichiers jeux. Mais je parlais de télécharger des jeux que vous possédez seulement. Mais saviez-vous que sur Internet, il y a des gens, des amateurs qui ont refait des jeux complètement? Exemple, pour les amateurs de Zelda, il y a des gens qui ont refait des Zelda complètement de A à Z. Évidemment, ça reprend les noms, ça reprend les mêmes logos et ainsi de suite. C'est pas tout à fait légal, mais comme vous pouvez pas les acheter, vous pouvez les télécharger, les installer. Je pense pas que Nintendo arrive chez vous avec un huissier pour reprendre vos meubles. Si vous êtes un fan de Zelda, même je pense qu'il y a d'autres jeux aussi qui ont été refaits par les fans. allez-y, installez Recalbox, c'est vraiment juste stupéfiant. Et une fois qu'elle est configurée, vous pouvez très bien l'offrir à quelqu'un, elle va être complètement autonome là-dedans, là, au même titre qu'une console de jeu. Alors c'est vraiment, la courbe d'apprentissage est vraiment, vraiment, vraiment basse, et c'est ça qu'on apprécie de Recalbox. Dernier truc, ah oui, je voulais vous en parler, le Pinebook. Qu'est-ce que c'est le Pinebook? Ben, le Pinebook, c'est un ordinateur sur Linux. Il est sur Linux, lui? Le Pinebook, je vais vous dire ça tout de suite, qui est un ordinateur, un laptop, hein, typiquement, pas quelque chose de très... le Pine 64, non, c'est ça, c'est ça. Alors, c'est un laptop 11 pouces ou 14 pouces, un clavier intégré, tout ça. Alors, c'est pour la modique somme, un ordinateur complet, hein, tenez-vous bien, de le premier 11 pouces est à 90$ et le deuxième 14 pouces est à 100$. Qu'est-ce que vous obtenez avec ça? Évidemment, un ordinateur portable, clavier souris, touchpad, sortie HDMI, deux sorties USB, une sortie casque, une fente pour mettre une micro SD, un chargeur qui vient avec ça, et évidemment, c'est un processeur 64 bits, 2 GB de RAM, 16 GB de ROM, et vous allez avoir comme système d'exploitation un PineOS, c'est l'équivalent d'un Linux, là, je vous dirais, vous allez avoir un ordinateur complet. Une batterie polymère-ion de 10 000 mAh, c'est quand même assez conséquent. Alors, si le système est bien optimisé, il est évidemment, juste pour revenir une dernière aparté, Wi-Fi, Bluetooth, il y a tout ça. Et évidemment, si le système est bien adapté à ça, ça devrait être une très très bonne autonomie. Maintenant, est-ce que les composants sont de qualité? Je sais pas. Est-ce que c'est des choses qui sont faites dans des pays émergents? Assurément. Est-ce que vous exploitez ces personnes-là? Assurément. Mais si vous vivez bien avec ça, allez voir du côté du Pine 64, en fait du Pinebook, il devrait sortir. Et là, je vous ai mis le lien pour vous abonner. Il devrait sortir en février. Les précommandes devraient faire en février. Alors là, vous pouvez vous inscrire à un formulaire ou qui vous demande votre adresse de courriel. Et les rumeurs disent qu'en février, vous recevrez un courriel pour faire votre première commande. Alors, qui sait? Peut-être un ordinateur qui va être mythique ou un peu geek comme le Raspberry Pi qu'on parle et qui est un grand, grand succès. Alors, on a fini la partie technologique. On va passer maintenant à la partie Internet. Alors, dans la partie Internet, cette semaine, je vais vous parler de deux, trois trucs encore intéressants. Le premier, que j'ai remarqué récemment, quand vous êtes en ordinateur, en mode ordinateur sur Twitter, avez-vous remarqué que c'est assez compliqué de mettre des emojis? Mais dans Twitter, maintenant, il y a un beau petit bouton, et je n'avais pas pensé à cliquer dessus. Quand vous commencez à écrire un tweet à partir d'un ordinateur, il y a un petit smiley dans le coin grisé, et quand vous appuyez dessus, vous avez toutes les emojis qu'il y a sur votre téléphone ou votre tablette. Alors, c'est juste très cool, parce que vous pouvez faire enfin des émoticons, utiliser le clavier d'émoticons de mobile sur Twitter, et c'est vraiment cool, et je souhaite que ça soit maintenant démocratisé dans tous les endroits où on peut saisir du texte, exemple Facebook, exemple tous ces endroits-là, pour qu'on utilise les emojis standardisés. Deuxième truc que je voulais vous parler de Shift. Qu'est-ce que c'est Shift? Alors Shift, c'est S-H-I-F-T. Et Shift, c'est pour ceux qui utilisent 2, 3, 4 comptes Google. Ça vous permet dans la même interface de connecter tous vos comptes et de switcher. En fait, d'un à l'autre, d'alterner d'un compte à un autre. C'est très, très graphique. L'avantage là-dedans, hein, dans cette chose-là, c'est que Shift est disponible sur Windows, sur Mac et sur Linux. Alors, cette interface-là est très bien faite. Alors, sur la partie gauche, vous ajoutez tous vos comptes. Alors, si vous avez, exemple, 2-3 comptes Gmail, vous les ajoutez. Et dans la partie en haut à droite, vous avez le courriel, le calendrier et le drive. Et là, vous pouvez switcher, exemple, du compte 1 sur Gmail et switcher du compte 2 sur le calendrier et ainsi de suite et alterner sans vous avoir à vous reconnecter et c'est super simple. Maintenant, c'est simple, mais ça coûte de l'argent. Alors, les deux premiers comptes sont gratuits. Alors, si vous avez deux comptes, c'est parfait. Vous pouvez utiliser Shift comme il faut sur Windows, Mac et Linux. Et l'autre est un forfait quand même assez abordable de $20 par année où vous pouvez avoir autant de comptes que vous voulez de Gmail et alterner là-dessus. L'avantage d'une solution comme ça où c'est payant, je trouve, c'est que ça garantit, peut-être pas, mais ça garantit peut-être qu'un jour, ça ne soit pas abandonné ou en tous les cas que les développeurs ont les moyens de supporter ce qu'ils vont développer et qu'ils vont continuer à s'adapter aux interfaces et c'est vraiment cool. Oui, la version payante à $20 supporte les comptes Outlook aussi. Alors, si vous avez un compte Outlook, 2-3 comptes Gmail, allez voir du côté de Shift Pro. Et si vous avez juste 2 comptes Gmail, Outlook, un compte Gmail ou un compte Outlook, et vous voulez switcher, ou 2 comptes Outlook, ainsi de suite, vous comprenez un peu l'idée, vous pouvez switcher super bien avec Shift, qui est très beau et qui est disponible sur les 3 systèmes d'exploitation les plus populaires en ce moment. Tantôt, vous m'avez entendu, je vous ai parlé d'Opera. Je suis maintenant sur Opera. Et j'ai changé à Opera parce que, pour la simple et bonne unique raison, c'est que j'ai beaucoup d'informations chez Google. Et puis, ben, je me dis que de temps en temps, c'est bien d'aller voir ailleurs. Et qu'il y a des nouveautés qui se font du côté de chez Opera. Opera, dernièrement, a fait 2-3 campagnes de pub pour parler de leurs nouvelles fonctionnalités qui sont vraiment assez intéressantes. La première fonctionnalité que j'aime bien de chez Opera, qui vient nativement avec Opera, c'est que ça inclut un VPN. Qu'est-ce que c'est un VPN? C'est un outil qui permet d'être complètement anonyme par rapport à votre fournisseur d'accès. Donc, si votre fournisseur d'accès bloque, exemple, je ne sais pas moi, les YouTube ou Netflix ou quoi que ce soit, quand vous partez votre VPN, qui est inclus directement dans Opera, vous n'avez pas à vous soucier de ça parce que ça va être complètement anonyme, ce qui fait que votre fournisseur ne le bloquera pas. Ça va être aussi avantageux si vous utilisez beaucoup les cybercafés ou les l'internet dans les lieux publics parce que ça va complètement encrypter vos en plus du HTTPS là, mais le VPN c'est encore mieux parce qu'il y a plus rien qui passe en clair sur le réseau de quoi que vous fassiez, tout est bien encrypté. Alors nativement un VPN, c'est ce que j'aime. Nativement aussi, ça bloque les publicités, ça c'est vraiment cool. Au niveau des pubs, j'ai fait le test rapidement pour voir si comparé à Adblocker, l'autre que j'utilise aussi qui est intéressant, je n'en ai peut-être pas parlé, ça s'appelle ublock.org, allez voir. Vraiment bien, c'est open source lui par rapport à Adblock et Adblock Plus. Ublock.org, petit aparté là, c'est un plugin que vous installez qui est open source et que que peut-être un jour ils ne vendront pas la publicité comme Adblock. Bon, bref, pour en venir à Opera, ça bloque les publicités, ça bloque aussi les petits espions logiciels, ça, ce qui est très cool aussi. La page de démarrage est super élégante, ça marche avec des tuiles, un peu comme Chrome pour les applications, mais sauf que là, vous pouvez paramétriser pour autre chose que des applications, des adresses web, des exemples où vous utilisez souvent Gmail, souvent Twitter, souvent Facebook, vous allez pouvoir paramétriser des tuiles, c'est très très beau. Vous pouvez aussi paramétriser les espèces de background qui est en arrière, ils sont très très beaux aussi. Fait qu'au niveau de la beauté du furteur, il l'a. Oui, il appelle ça le turbo, je m'en peux plus comment ça, il appelle ça là, le turbo boost ou je sais pas trop quoi. Il y a une espèce d'algorithme chez Opera qui fait que ça affiche plus rapidement les pages web qu'ils disent. Là, ça affiche plus rapidement les pages web que n'importe quel autre navigateur. Et évidemment, pour voir à quel point ils sont bons, dans leur outil, ils ont un speed test. Vous faites opera://speedtest. Et là, vous arrivez sur un site avec 2 fenêtres. En fait, une fenêtre, mais séparée dans le milieu. Vous tapez une URL et puis vous allez voir à la vitesse normale de votre furteur versus la vitesse avec le speed boost de Opera et vous allez voir les gains de performance que vous allez atteindre. Alors c'est vraiment cool, il est rapide, il est assez élégant, il bloque beaucoup de choses nativement, au niveau sécurité il est assez bon. Si vous avez un portable et que la batterie commence à faiblir, il y a un mode sauve batterie intégré. Je sais pas encore comment l'algorithme fonctionne, mais je l'ai testé. C'est pas les 50% comme ils promettent, là. Je vois une différence d'entre 15 et 20% de mon utilisation quand je mets ce bouton-là sur mon laptop. Un vieux laptop, là. En faisant les mêmes usages un peu d'Internet, là. Mais je vois quand même une différence avec ce bouton-là. Alors, il y a cet aspect-là de faire durer le matériel que vous avez à acheter. Il y a aussi quelque chose, mais c'est assez anodin, là, un convertisseur de devises intégré. Alors, je sais qu'il y a plein de plugins, mais ça, c'est intégré. Tout ce que je vous dis là, c'est intégré. Il y a toutes ces choses-là, bien souvent, dans les autres furetards, mais c'est des choses que vous devez installer. Alors qu'à la différence dans Opera, vous n'avez pas besoin d'installer quoi que ce soit. Au niveau des respects du HTML, du respect des langages d'Internet, il est très, très, très cohérent par rapport aux autres. Là. Ça se défend très, très bien par rapport à Chrome. Ça se défend très, très bien par rapport à Firefox. Bon, l'autre avantage aussi, c'est que il est sur Linux. Ça, on peut pas s'en cacher. Il va très bien sur Linux comme Windows et ainsi de suite. Alors, ça, c'est cool. Il offre la possibilité de synchroniser à travers vos ordinateurs et vos tablettes parce qu'il est disponible aussi sur les tablettes et sur les tablettes et les téléphones. D'ailleurs, j'avais imprimé des choses sur mon iPad pour vous parler de Opera sur iPad. Je vais essayer d'y aller en même temps pendant que je vous parle. Alors, oui, bon. Sur tablette, quand vous avez synchronisé votre Opera tablette versus votre Opera ordinateur, il permet de faire des recherches directement intégrées dans la barre de recherche comme Chrome. Ça, il n'y a pas de problème, mais sur tablette, qui permet aussi de faire des recherches directement dans Wikipédia, IMDB, eBay et Amazon. Fait que ça, c'est quand même une fonctionnalité assez intéressante, mais très, très, très... C'est très bien fait, là. Je sais qu'on peut le faire dans les autres navigateurs sur d'autres sur les systèmes d'exploitation mobile, mais c'est très intuitif et c'est très bien intégré. Il permet aussi, et puis ça, sur mobile, ça peut être intéressant, de lire les codes QR. Alors comme ça, vous n'avez pas besoin d'installer une application pour ceux qui utilisent encore des codes QR. Il permet aussi de, si je fais un switch, vous avez votre page avec les tuiles, la page de démarrage aussi comme les autres. Mais il y a une fonctionnalité super intéressante en mobile, et je trouve qu'elle est très cohérente sur mobile, c'est de conserver des pages en hors-ligne. Si vous avez des pages Internet sur lesquelles vous avez des informations, vous voulez y revenir, et que des fois vous êtes dans des endroits où il n'y a pas Internet, et que vous voudriez conserver ça, il y a le mode hors-ligne directement dans Opera. Alors vous allez sur les pages web que vous allez consulter quand vous n'allez plus avoir de réseau, et vous les mettez en mode hors-ligne, et vous avez directement accès à ces pages-là à partir d'Opera mobile. Alors, vous voyez, Opera, il y a beaucoup, 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 beaucoup de fonctionnalités intéressantes. Une dernière qui est très intéressante, c'est les plugins. Il y a beaucoup de plugins que vous utilisez probablement sur Chrome, si vous êtes sur Chrome, que vous aimeriez réavoir sur Opera. Alors, il existe un plugin, un module que vous installez sur Chrome, sur Opera, en fait, qui vous permet d'installer tous les plugins Chrome que vous avez directement à partir du store de Google. Alors ça, c'est l'ultime truc qui va vous, peut-être qui va vous décider d'aller sur Opera. Je vous dis, vraiment cool au niveau de ces usages, très très élégant, rapide, performant. Allez essayer, ça vaut la peine. Évidemment, quand vous essayez ces genres de furteurs là, si vous êtes tout intégré dans Chrome partout, c'est sûr que dans vos plateformes, il va falloir toutes les changer en même temps. Alors ça, c'est peut-être le seul désavantage. Mais au moins, une fois que vous avez changé, je vous garantis que vous n'allez pas le regretter. Alors ça, c'était pour Opera, que j'ai testé dans les dernières semaines et qui est vraiment super intéressant à travailler avec. Dans la partie Internet aussi, je vous ai trouvé 10 conseils pour réorganiser sa vie numérique. Un article a été fait sur Mashable France, je pense. Je vais pas faire les 10, c'est sûr, mais je vais en faire quelques-uns avec vous. Faites un peu de ménage sur Twitter, c'est le premier conseil de pour réorganiser sa vie numérique. Et là-dessus, il y a UpTweeps, qui est une page qui va supprimer ou unfollower, ou vous indiquer tous les comptes qui n'ont pas tweeté depuis longtemps que vous suivez. Ça sert à rien nécessairement de suivre beaucoup de comptes s'ils ne tweetent pas. Alors, ça vous permet de faire le ménage, ce petit plugin-là qui est assez intéressant. Un petit lien sur les pour faire le ménage, un plugin, en fait, une application qui s'appelle TuneUp, qui fait le ménage de vos chansons sur iTunes. Si, comme moi, vous avez foutu un peu le bordel dans iTunes avec les mauvais titres, les mauvais noms d'artistes, les mauvaises pochettes, tout ça, vous allez pouvoir faire le ménage avec cette application-là qui est TuneUp, qui est assez intéressante, mais qui est payante. Mais avec la version gratuite, vous pouvez quand même faire beaucoup. Alors, allez voir, c'est assez c'est assez bien fait. Et surtout, ça va remettre un peu de l'ordre dans votre librairie de musique. Un que je ne passerai pas sous silence, et puis je vais faire le lien aussi avec Linux, ça s'appelle CC Cleaner, qui va faire le ménage un peu partout dans vos navigateurs, qui va faire le ménage un peu partout sur votre disque dur d'ordinateur. Ça existe, CC Cleaner, sur PC et sur Mac. Mais sur Linux, il y en a un, et je l'ai installé, il est vraiment bien fait lui aussi. Ça s'appelle sur Linux... attendez que j'y aille... BleachBit, BleachBit, et évidemment c'est la même icône que CC Cleaner, ça fait exactement la même chose, sauf que sur Linux il y en a deux versions, la BleachBit normale et la BleachBit as a root. Il y en a une qui va supprimer plus de trucs parce qu'elle va avoir les droits d'administrateur, mais elle aussi vous allez pouvoir faire le ménage. Y a-t-il d'autres points? Ouais, évidemment, je vous ai parlé tantôt de faire le ménage dans Facebook. Je vous ai mis un lien pour améliorer toutes ces choses-là. Vous irez voir cet article de Mashable qui est assez intéressant pour faire le ménage en ce début d'année 2017 de votre vie numérique. Avant-dernier article de la catégorie Internet dont je voulais vous parler, c'est un lien qui vous montre comment avoir des titres puissants, en fait, des titres sur lesquels les gens vont cliquer. Si vous avez un blog, si vous avez un commerce pour lequel vous faites un blog, ben, il y a des moyens que les gens cliquent plus sur vos nouvelles que les autres. Et comment? Ben là, vous allez pouvoir le voir dans cet article-là. Cet article-là a évidemment un titre putaclic, comme on appelle, là. 21 titres puissants pour décupler vos partages sur les réseaux sociaux. Mais c'est quand même basé sur et je l'ai ici, c'est quand même basé sur Copyblogger, qui est un des très 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 gros sites et qui a analysé plusieurs façons d'écrire des titres. Et là-dedans, ben évidemment, vous avez toujours les fameux 10 trucs pour faire un machin, 20 listes top 40, top 10 ou des choses comme ça, là, c'est sûr qu'il y a des bonnes pratiques si vous voulez que ça clique. Ben là, vous allez en avoir encore plus là-dedans. Je ne sais pas, par contre, avec les nouveaux algorithmes de Facebook et de Google pour diminuer les sites qui ont des titres de ce genre-là. Je ne sais pas si ça va faire diminuer la puissance de ces titres-là, mais à tous les moins sur les médias sociaux, vous n'êtes pas obligé d'avoir le même titre que votre article. Vous pouvez inventer un autre titre, puis là, ça va peut-être générer plus de trafic sur vos sites web. Et le dernier truc que je voulais vous parler, ouais, pour la partie Internet, c'est depuis 3 semaines maintenant, j'utilise cette façon de faire-là, et puis je trouve que c'est assez cohérent pour mes liens, pour mes notes d'émission, pour mes notes tout court. Je me suis créé un blog. Et j'utilise pas le blog en mode blog traditionnel, c'est-à-dire j'écris une nouvelle et puis après ça, vous la publiez. J'utilise WordPress.com et j'utilise un blog qui est privé, caché. Alors, vous pouvez faire ça. Il y a 3 types de blogs. Il y a le premier blog... en fait, il y a un type de blog sur WordPress.com, mais vous pouvez le configurer de 3 manières différentes. Le premier, c'est qu'il va être accessible par les moteurs de recherche. Alors, généralement, c'est ce qu'on cherche à faire quand on a un blog, quand on a un site public. Le deuxième, c'est un blog qui va être public, mais pas indexé par les moteurs de recherche. C'est le genre de choses qu'on veut faire pour, je sais pas moi, si vous avez un réseau privé, mais que vous voulez pas vous faire suer avec des accès pour informer des gens. C'est peut-être intéressant d'utiliser ce format-là. Et puis, il y a la troisième façon de faire un WordPress. C'est un WordPress complètement caché où il y a juste vous qui pouvez aller voir cette information-là. Et c'est là où ça devient intéressant, où ça devient puissant. C'est que les deux dernières façons d'utiliser un WordPress, c'est-à-dire soit caché ou soit pas public, mais visible, permettent de faire des sauvegardes. Et puis, comment je fais mes sauvegardes? C'est que j'utilise l'application WordPress sur iOS ou même sur Android, elle existe, pour partager mes choses. Alors, typiquement, une fois que l'application WordPress est installée, que vous avez configuré votre compte d'accès, vous créez un blog, vous le configurez des 2 derniers modèles que je vous ai parlé, là, c'est-à-dire pas indexé ou caché. Et puis là, dès que vous voyez un titre intéressant, dès que vous voyez une photo, quelque chose que vous voulez conserver, vous l'envoyez sur votre WordPress et automatiquement, ça va conserver ça dans WordPress. L'avantage de WordPress, c'est que vous pouvez faire des flux RSS de nouvelles. L'autre avantage, c'est que vous allez pouvoir exporter toutes vos données de WordPress une fois que vous aurez fini. Alors, ça peut être des blocs temporaires. Vous avez un projet et sur lequel vous travaillez, vous voulez ramasser de l'information, colliger des faits, colliger des trucs. Il y a moyen de le faire avec un bloc temporaire et puis après ça, vous l'exporterez et vous pourrez l'utiliser ailleurs. Ça exporte en format XML. Alors, c'est quand même assez pratique. Ça fait des flux RSS et puis ça fait des flux RSS assez paramétrisables. L'avantage aussi, c'est que vous pouvez catégoriser l'information. Alors quand vous sauvegardez des liens, vous les catégorisez après et vous pouvez faire des flux en fonction de vos catégories. Je sais qu'il existe des services qui l'offrent beaucoup mieux que ça, comme Raindrop. Sauf que WordPress.com, j'ai une plus grande assurance que ça va rester dans le temps. Tandis que Raindrop, ben peut-être pas, peut-être que ça va fermer. Alors, en tous les cas, je me fie plus sur la fiabilité de la compagnie WordPress.com que les autres. Et il y a le fait aussi que je peux exporter comme je veux après. Et ça, c'est vraiment chouette. Alors, c'était mon usage de WordPress dans les dernières semaines. Je m'en sers pour sauvegarder de l'information pour les podcasts que je fais. Et je mets ça sur mon petit WordPress personnel et qui n'est accessible que par moi. Et c'est ma petite mémoire à moi temporaire. Évidemment, de base, vous pouvez sauvegarder juste 3 gigs, la version pas payante de WordPress. Alors, mes 3 gigs, ça suffit par projet. Si vous voulez tout synchroniser ou tout centraliser au même endroit, peut-être WordPress, ça peut être une façon de faire si vous avez déjà des blogs comme moi et que vous êtes tous sur WordPress.com. Maintenant, on va passer à la partie autre et politique, on va l'appeler comme ça, et divertissement. On va l'appeler autre politique et divertissement, société, / plein de trucs. Tout ce qui est éclectique et je n'arrivais pas à classer dans les premières catégories. Le premier lien dont je vais vous parler est un petit peu plus triste. C'est l'histoire de Saïd Malekpour, qui est né en 1975, qui a 41 ans. C'est un développeur iranien qui a été condamné à mort pour l'utilisation frauduleuse de son logiciel de partage de photos. Saïd développe un logiciel de partage de photos, le rend open source, et une fois que c'est fait, ben sur GitHub, je pense, et une fois que c'est fait, ben les gens en font bien ce qu'ils veulent. Typiquement, si quelqu'un prend un WordPress pour se faire un site la zoophilie, la pédophilie, ben c'est pas la faute de WordPress, c'est les gens qui l'utilisent à un autre usage, à un autre usage, en tous les cas, qui l'utilisent à mauvais escient. Alors, c'est un peu ce qui est arrivé à Saïd Malekpour, qui a développé un logiciel de partage de photos qui a été repris par des gens qui l'ont utilisé pour faire des partages de photos pas très très bien. Et Saïd est retourné dans son pays. Et c'est justement dans son pays, qui en Iran, qui s'est fait arrêter. Alors, il s'est fait arrêter pour peine de mort parce qu'il y a des gens dans son pays qui utilisaient son logiciel de partage de photos à mauvais escient. Et ils ont trouvé intéressant en Iran d'arrêter le créateur du logiciel. Alors, je vous ai mis un lien vers l'Electronic Frontier Foundation qui organise un blitz en ce moment parce que c'est un citoyen canadien qui est enfermé en Iran et qui fait un petit blitz en ce moment pour alerter le premier ministre Justin Trudeau, Stéphane Dion, le ministre aussi des Affaires étrangères Peter Kane, de l'intérêt que l'internet a pour cette personne-là. Alors vous sentez d'âme solidaire aux gens qui font du développement, aux gens, si vous trouvez que l'histoire est intéressante, même triste, ben peut-être aller faire un tour sur le lien que je vous ai mis. C'est un sondage que vous allez envoyer directement au premier ministre ou à Stéphane Dion au Canada. Vous pouvez faire partie de d'autres pays, hein, c'est pas grave, vous pouvez être français puis envoyer ça au premier ministre canadien. C'est juste pour le sensibiliser au fait que ben c'est peut-être pas les bonnes raisons pour lesquelles Saïd est enfermé et il risque la peine de mort pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Alors si ça vous touche, allez sur le lien que je vous ai mis. Là, je vais retourner dans mes notes. On va être un petit peu plus drôle. Non, peut-être même pas. Le deuxième lien, c'est un infographie qui est un petit peu triste par rapport à notre utilisation de la planète. Ça s'appelle « Produire moins pour consommer mieux ». Ça a été fait par le Journal de Montréal qui a fait une infographie assez intéressante. C'est rare de la part du Journal de Montréal, avec des sources puis tout. C'est rare qu'ils fassent des articles un peu plus fouillés, mais quand ils le font, faut le souligner aussi. Alors, ça montre que depuis 1970, on utilise la biocapacité de la planète plus qu'elle est capable de se régénérer. La planète est capable de se régénérer quand même, mais rendue à un certain niveau, là, elle n'est plus capable du tout. Et puis, ça montre aussi l'empreinte écologique moyenne par habitant de chaque pays. Et vous ne serez pas étonné de savoir qu'au Canada et qu'aux États-Unis, on est dans les moins bons élèves de la planète, ainsi que l'Australie, pour notre empreinte écologique... pour notre empreinte écologique par habitant. Les Canadiens consomment environ 3,5 fois leur capacité de part équitable de bioproductivité par chaque année. Alors, un citoyen canadien consomme 3,5 citoyens canadiens en planète, là, si on veut se résumer ça un peu. Et puis, on parle tout le temps du modèle scandinave, hein, qui nous dit « Oh, mon Dieu, que c'est toujours le modèle à suivre. » Eh bien, vous irez voir qu'ils sont pas beaucoup mieux. Parce que c'est dans en Europe du Nord aussi que c'est ça pollue beaucoup. En France, vous êtes pas dans les bons élèves, mais vous êtes pas dans les pires. Mais dans les pays scandinaves, il y en a des pires que vous. Alors, allez faire un tour, peut-être pour vous conscientiser, pour peut-être, je sais pas moi, clore certains débats qui vous avez eu avec des personnes dernièrement, hein, vous allez avoir le nombre de pollueurs qui est en fait la pollution la pire. Évidemment, la pollution la pire, c'est la pollution tout court, là. Mais vous allez voir aussi par strates de production, alors les productions forestières, les produits d'élevage, la culture, la pêche, ce qu'ils consomment de planète, là, on va l'appeler ça comme ça, là, ce qu'ils consomment d'hectares global, là. Et vous allez voir que la pollution, une fois qu'on a tout produit, là, il nous resterait une marge de manœuvre, hein, pour la planète, mais malheureusement, on fait tellement de pollution avec ces productions-là, probablement, ce qui fait qu'on dépasse la capacité de la planète à se régénérer. Alors, c'est un petit peu triste, mais je trouvais ça intéressant de vous le partager. Troisième lien, qui est vraiment, lui, plutôt farfelu. On a changé... moi, j'ai 40 ans maintenant, et j'ai traversé plusieurs fins du monde. Plusieurs fins du monde annoncées. Il y en a eu beaucoup pendant mes 40 ans. Et puis là, la nouvelle date cible vient d'apparaître. Ça serait entre le 23 septembre et le 5 octobre 2017, où une planète inconnue au bataillon, il viendrait en collision avec la Terre. Alors la planète X, qui l'a découvert, il s'appelle David Mead. C'est l'auteur du livre, évidemment, Planète X. Comme par hasard, il a un livre qui explique tout ça et il veut le vendre. Si c'est la fin du monde et qu'il veut vraiment que on se sauve tous de la planète et qu'il veut vraiment alerter tout le monde, pourquoi il le vend? Bref, ça c'est une autre question. À l'arrivée 2017, une planète encore inconnue entrera en collision avec la Terre en septembre ou en octobre prochain. Selon lui, l'élite mondiale serait d'ailleurs déjà en train de se construire des abris pour survivre au choc. Alors c'est ça, c'est encore un complot, des riches contre les pauvres, qu'ils savent déjà, mais qui font rien pour nous. Vous irez voir la prochaine date du fin du monde. Et si vous avez à dépenser, ben peut-être dépenser peut-être plus au début septembre, parce que vous n'aurez pas besoin de les rembourser, toute la planète sera détruite. C'était le troisième lien de la section autre. Quatrième lien, j'ai trouvé ça super intéressant. Les salariés français ont maintenant le droit à la déconnexion. Alors, c'est une loi qui est apparue, il y a eu plusieurs lois plusieurs amendements à la loi, l'article 55 de la loi du travail, dont l'objectif est d'assurer le respect du temps de repos des congés et de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Alors, maintenant, vous Français qui m'écoutez, vous ne serez pas tenu de répondre au cellulaire professionnel si vous n'avez pas été averti d'avance d'y répondre. Les salariés ne sont pas tenus de répondre aux appels, mais ça tient aussi compte des courriels et des textos. Alors, votre employeur ne pourra pas vous froncer les sourcils et vous dire que vous n'êtes pas correct de pas regarder ce qu'il vous dit à 3h du matin pendant que vous dormez. Et vous n'en serez pas tenu, il n'en sera pas tenu rigueur pour vous. J'ai trouvé ça très intéressant par rapport à tout ce qu'on parle depuis des années avec l'équipe de Nip Life, même dans l'éclectique de la des notifications ou de ces choses-là qui font que la vie des fois est pas très plaisante. Le dernier lien, lui, est totalement plaisant. C'est la bière du mois de janvier. En fait, c'est la bière du mois de décembre. En fait, c'est la bière du mois de novembre. C'est la bière des derniers mois parce qu'elle est sortie en septembre, mais elle va être annoncée dans 2 semaines à Québec. Pour tous les amateurs de heavy metal, vous connaissez certainement Megadeth. Eh bien, Unibrew, qui est un brasseur québécois bien connu, vous êtes capable d'avoir les produits d'Unibrew en Europe, ça je suis sûr, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui me suivent sur Twitter qui m'ont montré des photos. Alors, c'est une bière qui s'appelle À tout le monde, qui a été faite en l'honneur de Megadeth, parce que le responsable d'Unibrew est un fan de Megadeth, et au Festival d'été de Québec, le dernier ou l'avant-dernier Festival d'été de Québec, il a rencontré Dave Mustaine, qui est le leader, chanteur, en fait, qui est Megadeth, lui tout seul. Ils se sont bien entendus, ils ont décidé de faire un partenariat. Le partenariat s'appelle À tout le monde, la Megadeth, la bière Megadeth, qui est une excellente bière. J'ai goûté la bière Metallica, qui est pas buvable. En fait, c'est une Budweiser normale, qui a été apparemment une Budweiser ou une Molson Dry. Ah, c'est une bière d'ici, fait que ça doit être une Molson. Ou une Labatt. Cette bière-là, la bière de Metallica, a été brassée au son de Metallica, mais ça goûte la même bière que les autres. Et puis, il y a aussi la bière de Iron Maiden. Il y a 2 bières d'Iron Maiden qui ont été faites, qui apparemment sont bien faites par un maître brasseur, je pense, anglais. Mais là, on a la vraie québécoise qui est... pour Megadeth, qui est la À tout le monde, qui est une bière style belge, qui est vraiment très très bonne, très florale, fruitée. Alors pour ceux qui n'aiment pas les bières amères, âpres, ou lourdes, ou très alcoolisées, la À tout le monde est vraiment pas ça, elle est 4,5% d'alcool, elle est très bonne, elle boit très bien, une bière style belge sur lit, allez-y, c'est vraiment la bière des prochains mois, et ça va être probablement votre bière d'été. Alors, essayez cette bière-là, elle est vraiment bonne et elle se le trouve partout. Et Unibrew a aussi annoncé, incidemment, que ça serait une bière qui resterait tout le temps. Ça sera pas juste le temps d'une année. Elle va toujours être faite comme la fin du monde, comme la Blanche de Chambly, et ainsi de suite. Alors, pour les amateurs de bière, allez-y, sautez dessus. Elle est vraiment bonne. C'est pas juste une étiquette de Megadeth. C'est vraiment une bonne bière. Plus de d'éclectique. Bon, là, on est dans la partie inspiration. Deux citations qui m'ont parlé dernièrement. Une que j'ai entendue dans Niptech par l'ami Mike. Niptech, qui est un podcast sur la start-up, la tech et l'inspiration. Et qui est fait par Dr. Miller, M-I-L-L-E-R. Don't believe everything you think. Ne crois pas tout ce que tu penses. Ça, c'est vraiment, 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 vraiment une bonne citation. Des fois, on se fait beaucoup, beaucoup de scénarios dans sa tête. On se fait beaucoup d'ivresse mentale par rapport à des sujets, ce qui des fois nous empêche de dormir. En tout cas, moi, des fois, on se fait des grands scénarios. On appréhende beaucoup de trucs. Alors que il y a absolument rien qui va se réaliser. Peut-être qu'on a, on imagine 99% des choses alors qu'il y a juste 1% qui vont se réaliser. J'aime beaucoup cette citation. Ne crois pas tout ce que ton cerveau fait, tout ce que ton cerveau pense. Alors, puis vous irez voir, je vous ai mis le lien sur Monsieur Miller. Ça vient d'un podcast. En fait, ça vient d'un autre podcast. Ça vient pas juste de Niptech. Ça vient d'un podcast qui a été fait par Tim Ferriss où il rencontrait justement Miller, le docteur, qui est une personne amputée de 3 membres, 2 jambes, 1 bras. Quand il était jeune, il a commencé à faire le con sur des wagons de train et des wagons de train qui étaient électrifiés et un arc électrique est venu traverser son corps et il en a survécu. Et depuis, ben, c'est une sommité en tous les cas. Ce qui le passionne, c'est les soins palliatifs, c'est les soins de fin de vie. Et apparemment qu'il est très bon. Je vous ai mis un article du New York Times, je pense. Je vais juste vérifier. Ouais, du New York Times. Un article très très long, mais très inspirant. Vous irez voir la personne qui a écrit ça. C'est pas n'importe qui à y penser. La deuxième citation, je voulais vous parler, la deuxième citation inspirante. Ça s'appelle Count your rainbow, not your thunderstorm. Compte tes arcs-en-ciel et ne compte pas tes tempêtes. C'est un peu dans le même esprit de la première, c'est d'arrêter de compter les choses négatives, mais de focusser sur les bonnes choses. Et ça fait du lien par rapport au M podcast que j'ai fait. Quand vous prenez des résolutions, attendez, je vais me prendre un peu de thé parce que j'ai mal à la gorge. À force de vous parler. Alors quand vous prenez des résolutions. En fin d'année, il y a des gens qui font l'erreur d'en prendre une grosse. Et puis, à force d'en prendre une grosse, généralement, ils la tiennent pas. Il y a un fort pourcentage de gens qui la tiennent pas. Alors, ça vous fait des grosses défaites. Tandis que quand vous prenez beaucoup de petites résolutions à l'année, vous gagnez plusieurs petites victoires. Ben, c'est un peu le genre là, de cette situation-là. Count your rainbow, not your thunderstorm. Comptez donc vos petites victoires ou vos grosses victoires et focussez sur ce que vous avez fait de bien et pas forcément sur ce que vous avez fait de mal. Troisième lien inspiration, lui je l'ai bien aimé, c'est un truc. En fait, c'est en anglais, mais vous allez comprendre. Arrêtez de dire désolé et dites plutôt merci. C'est une petite BD qui vous montre comment vous pouvez arrêter de dire désolé, mais plutôt merci. Alors, vous allez voir, c'est assez simple. Quand une personne vous attend puis que vous êtes en retard, au lieu de dire « Ah, désolé, je suis en retard », dites donc « Ah, merci pour ta patience ». C'est pour un peu cultiver la gratitude attitude, hein, quand on en a parlé un peu dans Nip Life. Quand quelqu'un dit « ça fait pas de sens », quand une personne vous écoute, et que vous n'arrivez pas à dire de ce que vous avez à dire, là, comme moi présentement, vous cherchez vos mots. Ne dites pas « Ah, désolé, je cherche mes mots », mais dites plutôt « Ah, merci de comprendre, je cherche mes mots ». Vous voyez un peu le genre, la BD, il y a à peu près une dizaine de capsules, mais vous pouvez toujours alterner ou changer votre « désolé » pour un « merci ». Regardez plutôt cet aspect-là dans la vie, et vous allez voir, c'est intéressant. Il y a plusieurs façons de dire « merci » au lieu de dire « désolé ». À une personne et tout de suite la conversation, ça change diamétralement la vision de ce que vous avez et ça change aussi la façon de la personne à vous parler. Dans l'inspiration, le dernier lien, je t'ai soufflé, c'est sur l'essentialisme. C'est un article que j'ai vu sur Medium qui est vraiment, vraiment bien fait, très étayé. Vous irez le voir, c'est « Less but better », « Faire moins mais mieux », avec la nouvelle théorie du 90%. On a tout le temps entendu parler de la loi Pareto, hein, dans « M'optimise », on a entendu parler du 80-20, mais là, c'est la loi du 90%. Quand vous focussez sur l'essentiel, vous focussez généralement sur ce qui est meilleur pour vous, et vous laissez faire les choses qui n'ont pas de valeur et qui vont pas vous faire, qui vont pas vous améliorer. Vous focussez sur des choses qui vont faciliter votre vie. Alors, allez voir ce lien-là, c'est vraiment très cool. J'ai posté sur Twitter des citations, mais c'est vraiment un article vraiment bien fait. Je perds mes mots, je n'ai plus rien à dire. Mais il y a une phrase là-dedans de Saint-Exupéry, d'Antoine de Saint-Exupéry, que j'utilise tout le temps avec des clients. « La perfection est atteinte non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. » Pour les développeurs web qui m'écoutaient, même pour les architectes dans les maisons ou ainsi de suite, là. Retenez cette phrase-là d'Antoine de Saint-Exupéry. Alors, vous irez voir l'article sur l'essentialisme. Ça donne un peu le ton. cette citation-là à cet article. C'était dans ma partie inspiration. Et là, on s'en va tout de suite à la partie de la fin. Avec les liens pour lesquels, dans lesquels vous allez pouvoir me rejoindre. Alors, merci de me suivre, de m'encourager, de participer, de mettre des commentaires sur le blog, de mettre des commentaires sur iTunes. Vous ne l'avez pas fait depuis 2 mois, mais j'espère que vous allez en refaire des commentaires sur iTunes, ça serait cool. Mais en particulier, merci de m'encourager sur Tipeee. Tipeee, c'est quoi? C'est un moyen de financer, un moyen de recevoir de l'argent, un café, l'équivalent d'un café, l'équivalent d'une cigarette si vous fumez, l'équivalent d'un café Starbucks si vous êtes un peu plus riche. C'est un moyen de m'encourager à faire des podcasts, et c'est pas nécessairement tant pour l'argent que pour le fait que ça me... Comment je dirais bien ça? J'ai pas nécessairement besoin d'argent. Ça, si vous me connaissez, je fais pas le monde en fait avec ça, avec ce Tipeee-là. C'est plus pour le moyen de me commettre, de me sentir redevable. Plus vous allez me donner de l'argent, plus je vais me sentir redevable, c'est sûr. Alors, c'est un peu ça pour moi, Tipeee. J'ai pas besoin de ça pour faire du podcast, c'est clair, mais j'ai besoin de ça pour me motiver à en faire tous les mois comme je fais et à faire plusieurs M podcasts comme je fais. D'ailleurs, le M podcast est rendu à l'épisode 40, 41, et l'éclectique est rendu à l'épisode 30 en moins de 2 ans, c'est vraiment cool. Alors, merci à vous et continuez à m'encourager si vous voulez le faire. Il y a le lien vers le Tipeee dans les notes de l'émission. Alors, ça mettait le point final à cette éclectique-là qui a duré 1 heure et je suis essoufflé, vous avez pas idée. Je vais vous mettre une chanson de Conte, Jack Conte. Là, c'est pas Tom Conte, là, c'est Jack Conte. Un gars sur Internet qui roule sa bosse, c'est un peu grâce à lui que j'ai fait c'est avec lui que j'ai fait mon générique, que j'ai modifié son générique. Mais vous allez voir, il est sur Patreon. Et vous pouvez aussi l'encourager, mais il offre son album, son dernier album gratuitement. Et je vous laisse avec cet album-là, en fait, sa chanson, ce dernier album-là. Et lui, la chanson s'appelle Pédale, P-E-D-A-L-S. C'est pas le péjoratif, là. Vous allez l'écouter, c'est Jack Conte. C'est libre de droit, en tous les cas, c'est ce que j'en comprends s'il le donne à tout le monde. Et vous pouvez acheter ses chansons sur iTunes. Il est très, 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 très bon, comme tous les contes, d'ailleurs. Allez, clin d'œil à Tom. Salut, ciao, ciao tout le monde. Bon mois de janvier, profitez-en. Et puis, prenez des résolutions tous les jours. Vous n'avez pas besoin du 1er janvier ou du 31 décembre pour le faire. Allez, ciao, ciao. Frequency.